RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Tout de suite, c'est le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Andréane et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, un nouveau témoignage exceptionnel ce matin sur notre antenne, celui de la femme d'un ressortissant camerounais enrôlé de force par les paramilitaires russes pour combattre dans l'est de l'Ukraine. De son mari, elle n'a plus qu'une photo sur la place rouge de Moscou. Elle est sans nouvelles de lui depuis 6 mois et implore les autorités de lui venir en aide. Lui est dans la capitale russe pour 3 jours, le président centrafricain en visite officielle. En Russie, Faustin Archange-Touadéra doit s'entretenir aujourd'hui avec Vladimir Poutine et la liste de sujets à aborder entre les deux hommes est longue, vous l'entendrez. Autre visite sur laquelle on s'arrête dans ce journal, celle du président angolais en France. João Lourenço amène dans ses valises une pile de contrats à signer, notamment dans le domaine des satellites et de l'assainissement. Au sommaire également, on sera au Mozambique où Daniel Chapo a été investi président hier après des mois de contestation post-électorale. Et puis au Sénégal où les employés sénégalais des bases militaires françaises s'inquiètent du départ des soldats annoncés pour cette année. Ils réclament leur redéploiement dans les services de l'État. C'est un document exceptionnel, un témoignage rare que l'on vous proposait hier sur RFI, celui d'un ressortissant camerounais enrôlé de force par des paramilitaires russes pour combattre dans l'est de l'Ukraine. Et il n'est pas le seul, des centaines, peut-être des milliers d'Africains, d'Asiatiques ou de Latino-Américains subissent le même sort. Ce matin, suite de nos révélations avec le témoignage de la femme d'un autre ressortissant camerounais. Elle est sans nouvelles de lui depuis près de 6 mois et tient à alerter sur sa situation. François Mazet.
S'il est toujours vivant, Franck, un prénom d'emprunt, vient d'avoir 24 ans. Ce géomètre est le pilier de sa famille, selon son épouse. Son père est malade, ses frères en études, c'est lui qui les soutient. C'est pour eux qu'il veut quitter le Cameroun en juin 2024. Il croyait que la Russie serait un pays de transit avant un emploi en Pologne. Mais faute d'argent, à Moscou, on lui fait signer un contrat avec un recruteur russe. Il passe à peine 2 semaines dans un camp militaire, part pour sa première mission dans la région de Donetsk, c'était le 26 juillet. Depuis, Linda, son épouse, est sans nouvelles. Elle implore les autorités de lui venir en aide.
Même s'il est mort, et que si on le retrouve même qu'il est vivant, qu'on le rapatrie au pays, qu'on le rapatrie parce que ses parents souffrent vraiment depuis qu'il n'est plus là. Ses parents ne dorment pas. Sa mère m'appelle chaque jour, elle pleure. Son père, pareil. Et ses frères et sœurs, tout le monde est dépassé. Nous sommes tous inquiets. Vraiment, nous supplions l'autorité camerounaise à faire quelque chose pour nous. Parce que nous ne sommes pas quand même les seuls. Il y a plusieurs familles aussi dans cette situation. Et que s'il y a moyen d'arrêter même les services d'immigration, là, toutes ces personnes qui amènent leurs frères dans la mort, si on peut même mettre main sur ces gens pour les empêcher de continuer à faire du mal.
Linda dénonce les intermédiaires qui prospèrent sur cette situation. De Franck, elle n'a plus qu'une photo sur la place rouge de Moscou et une petite fille de 9 mois.
François Mazet, notez que le gouvernement camerounais a été sollicité dans le cadre du témoignage diffusé hier sur notre antenne et sur notre site. Jusque-là, sans suite, le témoignage de Linda, lui, est à retrouver en longueur dans un peu plus d'une heure. Elle sera l'invitée de François Mazet. D'ici là, vous pouvez lire ou relire sur notre site un long article consacré aux Africains enrôlés de force par les paramilitaires russes. Rendez-vous sur RFI.fr. Faustin Archange-Touadéra à Moscou, le président centrafricain est en visite officielle en Russie pour 3 jours. Selon le Kremlin, il va s'entretenir aujourd'hui avec Vladimir Poutine. La dernière rencontre entre les deux hommes remonte à juillet 2023 en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Alors de quoi vont-ils parler cette fois-ci? Réponse à Moscou avec Anissa El-Jabri.
Pour cet entretien, le Kremlin indique que les dirigeants discuteront, je cite, de l'État et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire, ainsi que des questions d'actualité sur l'agenda international et régional. Son porte-parole a précisé ce mercredi dans tous les domaines possibles, y compris celui très sensible de la sécurité. Cette visite intervient après la levée totale de l'embargo sur les armes, ainsi que la levée des restrictions sur le secteur diamantifère. La chaîne Ribar, réputée proche du ministère de la Défense, revendique dans ses décisions un rôle joué par la Russie. Juge aussi, je cite, qu'il n'est pas exclu que Touadéra demande un autre lot d'aide humanitaire. Ribar pose surtout la question de contrepartie que la Russie pourrait mettre sur la table en échange, je cite encore, de toute l'aide apportée par le passé. Sont cités Encore une fois, l'ouverture d'une base militaire russe dans le pays et de nouveaux avantages pour les sociétés minières russes. Anis El Jabri, Moscou, RFI.
Et dans la soirée, le ministère centrafricain des mines a annoncé la signature d'un mémorandum avec la Russie sur l'évaluation et l'exploitation des ressources naturelles. Lui entame une visite d'État en France aujourd'hui. João Lourenço est attendu à Paris. Le président angolais va rester 2 jours et s'entretenir avec Emmanuel Macron. Un rendez-vous alors que l'Angola va bientôt prendre la présidence tournante de l'Union africaine. À Paris, Claire Fage, il va notamment être question d'économie et de la signature de plusieurs contrats.
La visite de João Lourenço en France devrait être l'occasion d'annoncer un contrat important avec l'entreprise française Suez dans l'assainissement, le traitement des eaux usées en Angola. Un financement doit aussi être conclu avec la banque française Société Générale pour l'achat par l'Angola d'un satellite Airbus d'observation de la Terre qui sera fabriqué à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il s'agit de cartographier les ressources angolaises en pétrole, en minerais, mais aussi en eau pour l'agriculture. En projet également, un contrat de fourniture d'un hôpital ophtalmologique dans la capitale angolaise. La France souhaite accélérer la diversification de ses investissements, archi-dominés par les activités pétrolières. Cela rejoint le désir des autorités de Luanda de diversifier l'économie angolaise. Pour développer l'agriculture, un accord préliminaire devrait être signé avec l'Agence française de développement sur un énorme projet d'irrigation, tandis que la coopération se poursuit pour reconstituer une filière café. Les discussions porteront également sur le corridor jusqu'au port angolais de Lobito, projet d'infrastructure majeure pour acheminer les minerais congolais et zambiens vers l'Atlantique, que la France encourage au même titre que ses partenaires européens et américains.
Claire Fage du service économie de RFI, João Lourenço à Paris. On en parle aussi avec notre invité, juste après ce journal, Didier Péclard, professeur de sciences politiques et d'études africaines à l'Université de Genève. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Et s'il va être question d'économie à Paris, l'autre enjeu de cette visite, ce sont aussi des discussions sur le conflit dans l'est de la RDC. En amont de la venue de João Lourenço, l'Élysée dit soutenir fortement et activement le processus de Luanda entre Kinshasa et Kigali. Tous les sujets seront mis sur la table, assure la présidence française. Des mots alors que les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. Ils opposent, vous le savez, l'armée congolaise au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Hier, de violents affrontements étaient encore en cours sur l'axe Gungu, dans le Massissi, à 70 km à l'ouest de Goma.
RFI.
Après plusieurs mois d'une crise politique inédite et des manifestations réprimées dans le sang, au Mozambique, Daniel Chapo a été investi président hier. Son élection est toujours contestée dans le pays. En amont de la cérémonie, l'opposition appelait à 3 jours de grève nationale. David Baché.
Devant la place de l'Indépendance se forment de longues files d'attente. Des partisans de Daniel Chapo et quelques curieux sont venus assister à l'investiture.
Je suis très heureux, c'est notre président. Il mérite de diriger le pays avec respect.
C'est très important, surtout en ce moment, que le pays est un dirigeant fort.
Moi, je suis là pour les 500 métikaïs qu'on nous a promis. Je n'avais rien d'autre à faire.
C'est dans une ville déserte que le nouveau président prête serment. L'appel à la grève générale est largement suivi. Daniel Chapo assure qu'il entend son peuple et promet du changement.
Je sais que beaucoup estiment que les dirigeants sont des personnes inaccessibles et détachées des préoccupations du peuple. Tout cela va changer. Nous sommes ici pour servir et non nous servir.
Dans le centre-ville, très vite, des tirs retentissent. La police disperse chaque embryon de rassemblement. Daniel et Fidelic sont excédés.
Ce sont des bandits, des criminels. Ils ont tué 3 personnes aujourd'hui. C'est normal, ça ? Les voitures sont arrivées et ils ont tiré. Pan, pan, pan. On ne l'acceptera pas. Ils ne gouverneront pas par la force.
On n'a pas peur. La mort, ce n'est rien. On veut la vérité électorale. On est déjà mort depuis longtemps.
Selon la société civile mozambicaine, la répression de la contestation a déjà fait plus de 300 morts.
David Bachet. Et si Daniel Chapeau a été investi président, l'opposant Venancio Mondlane revendique toujours la victoire. Il promet d'ailleurs d'annoncer demain des mesures pour les 100 premiers jours de ce qu'il qualifie de son mandat. Il y a une semaine, à son retour d'exil, il avait prêté serment dans la rue devant ses partisans. Pas de chamboulement, mais l'arrivée de nouveaux visages. Au Gabon, le président de la transition a remanié son gouvernement hier. Le premier ministre Raymond Dong Sima reste en place, mais il est rejoint par plus de femmes et de jeunes. 7 mois avant la fin de la transition, ce nouvel exécutif aura pour mission d'organiser les élections générales. RFI Libreville, Yves-Laurent Goma.
Les principaux poids lourds de l'équipe sortante conservent leur portefeuille. Les ministères de souveraineté restent entre les mains des proches du président de la transition. C'est le cas de la défense nationale, gérée par le général Brigitte Onkanoa, Régis Onangandiaï aux affaires étrangères, Marcel Abeke au pétrole ou Charles Mba au budget, qui récupère également le service de la dette. Le nouveau gouvernement compte 35 membres, compte 31 dans l'équipe sortante. Il y a 10 nouveaux ministres parmi eux. Marc Ndoumba, nommé ministre de l'économie en remplacement de Maïs Mouissi, déplacé à l'environnement. L'opposant Séraphin Davéa Kouré arrive comme ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement. Une équipe composée de 11 femmes contre 9 auparavant. 6 ministres ne sont pas reconduits. Le principal défi sera d'organiser les prochaines élections qui mettront fin à la transition au plus tard en août prochain. Plusieurs leaders politiques et syndicaux demandent au général Oli Nguema de ne pas être candidat à la présidentielle. Tous les textes en vigueur lui en donnent le droit.
Yves-Laurent Goma, on part pour le Sénégal avant de refermer ce journal. Après l'annonce le 31 décembre dernier de la fermeture des bases militaires françaises cette année, place à l'inquiétude pour les quelques 500 employés sénégalais qui y travaillent. Armand Cissé est délégué syndical de ces travailleurs. Il appelle les autorités sénégalaises à plus de clarté.
Nous, la question qu'on leur pose, c'est, et nous dans tout cela, ont-ils prévu quelque chose de l'État français pour ceux qui sont en emploi direct? Ils attendent un plan social, comme cela s'est fait en 2011, quand il y a eu en fait le même cas. Parce qu'en 2011, on était sur l'ère des forces françaises du Caver avec un effectif de 1200 éléments militaires. Ils sont passés à 400 et nous, on est passé à 300. La moitié a été en fait déflatée. Mais ils ont pu bénéficier d'un plan social, un plan social pour les accompagner. Ce qu'on attend de l'État sénégalais, qui a pris sa décision souveraine que nous respectons, nous attendons de l'État sénégalais un redéploiement de ce personnel-là, qui est professionnel, qualifié dans les services de l'État.
Armand Cissé au micro de Fadima Sy, de la rédaction en Mandinkan et en full-full-dé de RFI. Et c'est donc à Dakar, où il est 5h43, que s'achève ce journal. Et je vous laisse en compagnie d'Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet, on se retrouve dans une heure. RFI 6h43 à Paris, prochain journal.